sont là, en place, à l'instant, c'était Metric, Dead Disco, ça se produira également à la Lune des Pirates, mais on aura l'occasion d'en reparler. Allez, un morceau, le temps pour Guillaume et Guillaume de s'installer, et dans 5 minutes, bah, c'est Culture en placard sur Graphite.
Vous écoutez Graphite, il est 20h20 à peu près, et c'est Culture en placard qui commence immédiatement. Alors, présentons un petit peu cette émission qu'on lance aujourd'hui. Culture en placard, ça a pour but de faire sortir la culture du placard. Parce que chez nous, notre culture, elle est toujours reléguée un petit peu sous l'évier. Donc, on va vous accompagner pendant quelques semaines et on va essayer de parler un petit peu de culture, de toutes les cultures, que ce soit donc on va parler de livres, on va parler de cinéma, on va parler de BD, on va parler de DVD, on va parler de sorties, d'expositions, bref, de tout ce qui touche un petit peu à la culture quoi et à l'art. Donc avec moi ce soir j'ai Guillaume, mon cher co-animateur.
Bonsoir tout le monde, voilà, moi c'est Guillaume, comme l'autre Guillaume en face de moi, co-animateur et camarade dans la lutte pour la sortie de la culture du placard. On va tous faire notre coming out au niveau culturel.
Et on a Olivier ce soir, qui, puisque ce soir en fait on va s'intéresser beaucoup à la bande dessinée. Alors Olivier est le président de BD Oumanoumest. Olivier, bonsoir.
Bonsoir à tous. Donc BD Oumanoumest, le futur festival de Compiègne les 9 et 10 avril prochains. Donc j'essaie de mettre un petit peu cette culture défaillante et un petit peu underground de la bande dessinée dans cette émission.
D'accord. Bah Guillaume, je te laisse présenter le programme de la soirée.
Eh ben, alors ce soir, on va essayer de faire assez simple. C'est la première, on va pas trop compliquer la chose. Donc on va surtout parler de bande dessinée, aborder les thématiques bande dessinée internationale, c'est-à-dire qu'on va avoir l'approche BD franco-belge au niveau européen, une petite approche bande dessinée américaine, donc comics, et l'approche bande dessinée asiatique, les mangas. Donc pour ça, on a fait venir un spécialiste, j'espère que le mot va pas lui faire peur, qu'il va pas se dire « Oh là, ils attendent beaucoup de moi,
non, c'est bon.
Pas compte, voilà ». J'ai confiance en toi aussi Olivier, pas de problème. Et bon, on va faire assez simple je pense, on va déjà attaquer un petit peu par la présentation de ces trois genres artistiques, trois genres de BD qui sont très très proches et en même temps très éloignés du fait culturel des sociétés dans lesquelles elles se sont développées. Mais si je ne me trompe, tout de suite on a un petit morceau de musique.
Ouais, on va s'écouter un petit disque. Alors on écoute Think Twice. L'album s'appelle Unemployed. C'est du rock assez électronique, je dois dire. Et le morceau s'appelle Sluts. Je vais pas traduire parce que en français, je crois bien que c'est un gros mot.
Culture en placard, le lundi 20h21 sur Graphite.
Et voilà, nous voilà de retour donc dans Culture en Platière, comme vous avez entendu, et on va tout de suite attaquer avec la thématique du jour, la bande dessinée. Donc j'accueille à mon côté, vous avez déjà dû l'entendre, Olivier, qui va nous faire un petit topo assez rapide, je pense, quoique...
Oui, très rapide, parce que il y a tellement de choses à dire qu'on va se concentrer sur l'essentiel ce soir.
Parfait, impeccable. Donc je te laisse la main, je sais pas trop par quoi tu vas commencer, mais tu es le bienvenu, vas-y.
On va commencer par la bande dessinée franco-belge, celle qu'on peut voir à Leclerc ou Carrefour tous les jours. Alors la bande dessinée française, qu'est-ce que c'est? Ça a commencé en 1827 avec des choses pas très intéressantes. Donc on va tout de suite passer en 1925 avec la première BD qui sort, c'est Zik et Puce. Ça parle à personne, donc on va tout de suite passer à Tintin, ça parle à tout le monde. Ensuite, les auteurs s'enchaînent, c'est pas vraiment intéressant, on la voit tous les jours. Parlons plutôt du manga ce soir. Le manga, qu'est-ce que c'est? Le manga, c'est une bande dessinée japonaise. Japonaise, donc lisible à l'envers, donc illisible pour nous. Pour vous faire ça rapidement, on prend une petite tripotée d'auteurs, à savoir un lead et des assistants autour de lui. Ces assistants le secondent et leur but est de sortir en un mois à peu près 300 pages de bande dessinée. On classifie le manga en plusieurs styles, le shoujo manga qui est le manga pour filles, le shonen manga qui est pour jeunes garçons et le seinen manga pour adultes, jeunes adultes. Enchaînons maintenant avec le comics américain. Je suis désolé, c'est très très rapide, mais on aura peut-être l'occasion dans futures émissions de développer d'autres thématiques sur la bande dessinée. Le comics américain, c'est une autre style de culture, une culture qui se fait pareil autour d'un artiste principal qui est secondé par un scénariste et un encreur et des coloristes.
Alors attends, ça c'est assez intéressant, est-ce que tu peux développer juste, nous en Europe on n'a pas du tout ça, le côté on a un auteur qui s'intéresse et qui fait son personnage à lui et il n'y a pas le côté franchise, c'est-à-dire
tout,
que...
Tout à fait, c'est-à-dire que nous avons cette grande chance en France d'être propriétaire de nos créations, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis dans la plupart des grandes filiales type Marvel et DC. Mmh. C'est-à-dire qu'un auteur qui va signer chez DC, par exemple pour Batman, ne sera pas dépositaire de Batman, comme nous on est dépositaire de l'Enfeuse de Troie par exemple. Mmh. Et ça a d'ailleurs posé gros problème avec la création de Superman, qui est le premier comics de super-héros américain, où les auteurs Joe Shooter et Joe Siegel n'étaient pas propriétaires de Superman en fait. Ce qui fait que dans les années 90, il y a eu un procès afin de libérer ce personnage de l'emprise de DC.
D'accord. Alors en fait, je connais très très peu de choses, donc je suis un petit peu au même niveau que l'éditeur. En comics, je crois qu'il y a Marvel, donc qui eux ont les X-Men et Spider-Man et
tout à fait.
D'autres gens peut-être, des gens type en collant, enfin
des gens en collant.
La sexualité trouble, on peut dire.
En coup de couleur chamarrée, tout à fait. Donc il y a Marvel, X-Men, Spider-Man, Daredevil, Elektra, on va parler tout à l'heure. Il y a DC qui est plutôt Batman, Superman. Et il y a des petits labels indépendants qui essayent de se monter pour une scène un petit peu plus underground. Par exemple, Hell Kitchen ou Vertigo, par exemple, qui est une filiale de DC, mais plus axée sur le lecteur plus culturel, on va dire.
D'accord. Donc l'auditeur type de notre émission.
Tout à fait.
Autre chose à rajouter à ce sujet ?
Oui, tout à fait. Ça va être très très court. Il faut juste savoir qu'en France, si l'on veut se procurer des bandes dessinées, il y a des libraires spécialisés. De même pour les mangas, les comics se trouvent chez des libraires spécialisés comics en version originale. Donc il faut faire un certain effort pour avoir une culture américaine, on va dire. Sinon, je vous encourage tous bien sûr à lire cette culture un peu moins élevée que celle de nos amis Guillaume, mais bon.
Non, moi je suis pas du tout je respecte beaucoup les gens qui s'intéressent à la bande dessinée parce que je pense que c'est un médium culturel comme un autre, hein. C'est pas parce qu'il y a des images pour que les gens un petit peu bêtes puissent comprendre plus vite que forcément tout de suite savent moins bien qu'un livre, hein.
Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est surtout que dans l'esprit des gens, la bande dessinée c'est le côté enfant, 6-12 ans, alors que finalement la bande dessinée c'est pas retrouvé comme un média et un vecteur de propagande peut-être plus fort que le cinéma, par exemple.
Ah ouais, tu irais jusque là.
Oui, on en parlera probablement tout à l'heure avec Frank Miller, mais effectivement, c'est un moyen factice et dissimulé de proposer aux gens un deuxième niveau de lecture qui serait plus adapté à la dénonciation de la drogue, des prostitutions, enfin ce genre de choses qu'on verrait pas, par exemple, dans un film classique.
D'accord.
Et on a le support de l'image afin de donner quelque chose de visuel, quelque chose de fort, en plus des textes.
D'accord, c'est-à-dire qu'un public américain lambda, par exemple, on dit américain parce que c'est des gens qui sont pas très très cultivés, hein, on est entre nous, on est entre intellectuels ce soir, n'irait pas forcément vers des livres, mais vers de la bande dessinée, et donc effectivement c'est un moyen de les toucher par là.
Disons que le comics a été très longtemps diffusé à 10 cents.
D'accord. Donc accessible.
Donc accessible. Aujourd'hui, c'est plutôt $3 le comics, avec 15 pages et 15 pages de pub. Bon, il faut s'y faire, mais on y arrive quand même.
Ok, mais en France, tout ça reste très cher.
Oui, surtout si on veut avoir du comics en américain, ça commence très très vite à monter.
Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup Olivier, c'était un point assez sympa sur les différents types de BD. Tout de suite, on va écouter Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat, donc un petit peu d'un petit artiste français bien de chez nous, qui se moque de l'américanisme ambiant avec son titre Mâche Potétisée. Vous êtes sur Graphite 94.9 FM, j'ai réussi à le lire.
Et voilà, bon retour sur Graphite 94.9. Et tout de suite, on reçoit Mickaël qui vient nous faire un petit bref info de la journée. Mickaël.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Guillaume, bonsoir Guillaume, bonsoir Olivier, bonsoir mesdames et messieurs qui écoutez Graphite sur 94.9. Chaque semaine je reviendrai sur l'actualité du jour, parfois du week-end quand il y en a. Et puis chaque vendredi j'ai le plaisir de vous retrouver avec Lucille pendant les mêmes infos vers 12h, 12h30. L'actualité de ce 14 mars avec tout d'abord l'actualité internationale. Au Liban, une manifestation sans précédent qui a eu lieu aujourd'hui à Beyrouth. Près de 800 000 manifestants se sont rassemblés pour réclamer la vérité sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. L'occasion aussi d'exiger le retrait total et sans condition des troupes syriennes et de dénoncer la désignation à la tête du gouvernement libanais de Omar Karamé, Premier ministre pro-syrien, nommé le 10 mars dernier. Demain, ce dernier tentera d'ailleurs de mettre en place un gouvernement d'unité nationale. En Turquie, un séisme a frappé l'est du pays et a fait, selon un bilan provisoire, 18 blessés et de nombreux dégâts matériels. D'une magnitude de 5,9, ce tremblement de terre intervient deux jours après des secousses qui avaient fait 16 blessés et endommagé plus de 200 constructions. Enfin, Irak, Serge Julli, directeur de Libération, est attendu demain après trois jours passés à Bagdad, où il a lancé un appel aux ravisseurs de Florence Obna et de son guide irakien Hussein Hanoun. 68 jours après leur disparition, toujours aucune négociation n'est engagée. Cependant, notant que Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, indiquait hier que les services officiels français avaient connu une accélération des contacts et des informations. En France, le référendum sur la Constitution européenne est, selon un sondage BVA réalisé entre les 7 et 9 mars dernier, le oui s'essoufflerait pour atteindre 56% contre 44% pour le non. Pour Jérôme Sainte-Marie, directeur des études politiques de BVA, toute mise en rapport avec la politique de gouvernement profite au non. Social, alors que la gauche réclame du concret de la part du gouvernement, Jean-Pierre Raffarin réagit à la grogne de ces derniers jours et veut jouer la carte de l'apaisement. Après une semaine de forte mobilisation sociale, le Premier ministre s'est dit favorable à des négociations salariales et a plaidé pour un partage de la connaissance, de la croissance, pardon, dans les secteurs publics comme dans les secteurs privés. Social toujours, une nouvelle manifestation des lycéens est prévue demain à l'appel des deux principaux syndicats, la Fidèle et l'UNEL. L'UNEL dont nous aurons l'occasion de reparler avec Guillaume un peu plus tard, qui indique prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité des manifestants. Rappelons en effet qu'il y a quelques jours, la manifestation de Paris avait été émaillée, pardon, de divers incidents. Rappelons aussi qu'à l'origine de ces mouvements, c'est la loi d'orientation sur l'avenir et l'école proposée par François Fillon et votée le 2 mars dernier à l'Assemblée nationale. Son adoption définitive est prévue d'après Libération au 24 mars pour les députés et au 25 mars pour l'adoption pour les sénateurs. Sachez enfin qu'aujourd'hui un incendie s'est déclaré peu avant 17h au 7e étage du CHU de Rouen. Les patients hospitalisés au 7e et 8e étage ont été évacués. Seules quelques personnes ont été incommodées. Et comme nous sommes dans l'émission Culture dans le placard, un petit point sur le cinéma cette semaine avec le dernier film de Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté, avec Romain Duris en tête d'affiche. Parmi les autres sorties, on comptera la comédie Tout pour plaire, mettant en scène Mathilde Seigné, Julie Gorèche et Anne Parillo, traitant des aléas de l'amour, mais aussi Hitch, film dans lequel Will Smith incarne un expert en séduction. Enfin, Before Sunset, suite de Before Sunrise, avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Et Maaleo, un voyage au cœur de la société malgache. Enfin, cette dernière, notons que c'est le film Raid sur la vie de Ray Charles qui a largement dominé le box-office avec près de 340 000 entrées, devant le couperet et Mon beau-père et moi. Voilà, chaque semaine, j'aurai donc l'occasion de vous retrouver et je laisse tout de suite la parole à Guillaume. Guillaume et Olivier, nous continuons, je pense, sur le thème de la BD, et peut-être aussi sur l'actualité cinématographique à venir.
Merci beaucoup Mickaël, quel professionnalisme, je suis absolument impressionné. Mickaël n'est pas un débutant comme nous, donc voilà, on aura la chance, vous l'aurez compris, donc de le recevoir chaque semaine pour un point d'actu qu'on espère d'aussi complet et d'aussi haute qualité chaque semaine. Merci encore Mickaël. Quelqu'un voudrait rebondir sur un point qui aurait été... J'ai été très très surpris, j'ai vu ça dans le Figaro aujourd'hui à propos des débordements, donc qui étaient c'était le 9 mars, des manifestations lycéennes. Il y avait eu quelque chose comme... Ils n'avaient pas mobilisé beaucoup beaucoup de monde sur Paris, donc ils avaient seulement 9000 manifestants, c'est ça Guillaume je crois?
Exactement, 9000 manifestants.
Et alors le chiffre avancé en nombre de casseurs, parce qu'il y a eu des problèmes, était de 1000 casseurs. J'ai trouvé que la proportion était absolument... terrifiante, donc je sais pas, peut-être que Figaro devrait vérifier un petit peu ses comptages, ça me fait rire. Voilà, bon allez, on enchaîne un petit peu, on parle de ciné.
Bah oui, tant qu'à faire.
On parle de sortie ciné, on transition.
Comme on va faire, en fait, vous allez voir un grand écart entre le cinéma et la bande dessinée. En fait, cette semaine sort au cinéma Elektra, un film certainement de très très grand niveau, avec, vous devez connaître, Jennifer Garner dans le premier rôle. Vous savez, Jennifer Garner, l'actrice principale de Alias, série américaine diffusée en France. Et Elektra, vous l'avez certainement déjà vu dans Daredevil, qui était joué en rôle principal par Ben Affleck, sachant qu'Elektra, en fait, est un personnage inspiré et sorti de Daredevil.
Non, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à bien voir, elle porte une tenue réprouvée par la morale, en base de cuir, quelque chose comme ça, bordeaux, rouge
Rouge.
Rouge.
Rouge officiellement, on va dire. Il me semble qu'il est bleu dans le film, d'ailleurs.
Ah bon? Parce que moi, sur les fiches, j'ai vu que c'était rouge.
Il faut savoir qu'elle a une très grande garde-robe, on va dire. On s'attardera pas trop dessus, mais officiellement, la couleur dans le comics est rouge.
D'accord.
Exactement, parce qu'en fait, si l'on aborde le sujet de ce grand film, c'est surtout et a priori parce qu'il s'agit en fait à la base d'un comics américain sorti et créé par Frank Miller. Frank Miller, dont on va vous parler un petit peu plus en détail que les autres auteurs que vous avez pu, qu'on a pu aborder avant, du fait en fait de son importance au niveau bande dessinée américaine et au niveau aussi cinématographique. Donc je laisse la parole à Olivier, qui est aussi, comme moi, grand fan de Frank Miller, mais lui, plus grand connaisseur encore.
Il faut savoir donc que c'est pas tout à fait exact, Daredevil existait avant l'avenue de Frank Miller. Il sait simplement que cette série était tellement mauvaise qu'elle n'arrivait pas à décoller les ventes. Et Marvel a vu ce petit jeune Frank Miller qui dit « Petit, tu as l'air doué, je vais faire de toi une star ».
Et donc, il a quel âge, toi, tu dis jeune
Jeune, alors, ça date des débuts 80, quand on parle de Frank Miller à cette époque. Et il se voit donc confier, en tant que jeune auteur, le scénario et le dessin de la série Daredevil. Il en fait donc un personnage beaucoup plus torturé psychologiquement. Il faut savoir que le monsieur est aveugle suite à un accident avec un camion chimique de mémoire, et il se retrouve donc aveugle. Mais il dispose maintenant d'un éco-radar qui lui permet de se déplacer en dépit de son handicap, et fait maintenant... Un problème, Guillaume ?
Non, vous êtes bien dans une émission culturelle, donc c'est un super-héros aveugle qui bénéficie d'un éco-radar, vas-y, continue.
Tout à fait, et donc il se permet, via cette surhumanité, on va dire, de faire régner la paix dans son petit quartier, Hell's Kitchen. Donc, avocat le jour, super-héros la nuit. Il était assez fade, on va dire, jusqu'à l'avenue de...
Un petit peu comme Gilbert Collard, je m'égare.
Oui, bref. Et donc, Frank Miller a décidé de faire de ce personnage quelqu'un de beaucoup plus torturé psychologiquement et introduit dans la série le personnage d'Elektra. Elektra est une ninja des temps modernes qui travaille pour une société secrète pas très claire. Et malheureusement pour lui, Monsieur Daredevil va tomber amoureux d'Elektra, et suite à un quiproquo malheureux, Elektra va se faire tuer. Drame dans la famille, il n'en s'en mettra pas, etc., etc., etc. Après cette petite intermède sur Elektra, il va vite en avoir marre de la société Marvel et partir vers la société DC pour encore une fois reprendre un personnage qui était en train de couler, à savoir Batman.
Oui, parce qu'en fait...
Moi, ça me parle, là, je suis content, on est revenu sur quelque chose que je connais.
Guillaume reconnaît, mais un élément important à voir avec Daredevil, c'est que grâce à Frank Miller... Ce comics est devenu l'un des mieux vendus aux États-Unis.
C'est un petit peu pourquoi il était embauché quand même.
Exactement, il l'a engagé pour ce truc-là. Et si Frank Miller n'était jamais passé sur ce comics n'aurait jamais percé et il n'en aurait jamais fait un film avec Ben Affleck. Rendez-vous compte de la gravité et des responsabilités de ce brave créateur-dessinateur.
Oui, enfin, il faut savoir que Daredevil est quand même une suite de projets Marvel qui a décollé à cause d'X-Men ou grâce à X-Men. Je ne pense pas que si X-Men avait eu un bide au cinéma, Daredevil n'aurait certainement pas eu le jour.
C'est sûr que par le biais de la réussite de X-Men, ça a ouvert la porte à l'adaptation cinématographique du maximum de comics, d'où la sortie de Hellboys, de... Oui, Guillaume, ne fais pas cette tête.
Non, je vous suis complètement...
Tu es sûr.
Je suis suspendu à vos lèvres. Moi, j'avoue que c'est un domaine qui m'est assez étranger.
Donc il faut savoir qu'au départ, le premier film de la licence Marvel à avoir été adapté au cinéma, il s'agit de Blade, qui est bien un personnage de comics américain. Chasseur des vampires également, a suivi X-Men, a suivi Hulk, a suivi tout ce genre de licences bien juteuses, dont Spider-Man bien sûr. Et donc aujourd'hui, le thème, enfin, il y a quelques temps est sorti Daredevil, une adaptation pas toujours, toujours glorieuse sur la forme, mais ça marche. C'est ça le principe.
D'accord. Et en parlant donc Frank Miller, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose de très 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 bien qui allait sortir cet été avec Tarantino dans le coup. Sin City, c'est ça ?
Sin City, effectivement. Sin City, il s'agit quand même de l'œuvre majeure de Frank Miller que je recommande à tous absolument, puisqu'il s'agit d'une BD qu'il a fait après son Batman. Il a quitté les grands pontes de l'industrie comme de Marvel et DC pour entrer dans un petit label indépendant qui lui permet de créer ses personnages et d'être propriétaire de ses personnages. Et ça, c'est important parce qu'il fait ce qu'il veut avec. Il crée donc Sin City, la cité du vice, où cette fois ce n'est pas un personnage qui est le maître à bord, c'est la ville elle-même, la cité du vice. Il n'est donc pas inquiétant de voir comme héros principal quelqu'un de dérangé psychologiquement, adepte des drogues, adepte de la prostitution, adepte de la violence, parce que la violence est bien au cœur même de Sin City. Parce qu'on a bien, on a beau dire que c'est une bande dessinée, il faut savoir que face à l'américanisme puritain, le puritanisme américain, on va dire, actuel, cette bande dessinée fait figure d'explosif non contrôlé, puisqu'elle y dénonce en douceur tout ce qui ne lui plaît pas en Amérique.
D'accord. Donc c'est adapté au cinéma avec Bruce Willis, d'après ce que j'ai cru comprendre, le 5 juillet, donc guettez-le sur les écrans. Et alors à la réalisation, il y a Miller lui-même, donc parce qu'il touche un petit peu à ce domaine-là. Enfin, quoique les dernières choses qu'il avait faites, c'était pas absolument un succès, je crois.
Il y a quand même Robocop 2, qui est...
Non, 3, c'était Robocop 3.
Il a fait Robocop 2 et 3. Mais au scénario seulement, pas à la réalisation.
Ah oui, d'accord.
Et il y a eu beaucoup de projets...
Ah, ça décharge.
Beaucoup de projets lui ont été proposés sur Sin City, mais il a dit « Tant que je ne serai pas maître absolu de la production, de la réalisation, je ne le ferai pas. » Et donc il est tombé sur Monsieur Tarantino et Roberto Rodriguez qui lui ont dit « On veut le faire, mais on le fait avec vous. »
Ah ouais, et donc, ça promet.
Et donc ça promet quelque chose de grandiose, à savoir un film qui respecte le côté noir et blanc de la bande dessinée, donc il sera en noir et blanc. Il prendra trois histoires qu'il essaiera d'entrecouper comme dans la bande dessinée. Et on va avoir une pléiade d'acteurs tels que Bruce Willis, Jessica Alba,
Mickey Rourke,
effectivement, qu'on va sortir d'un placard comme la culture. Et je pense
que le placard est un conteneur très en vogue. Hein. Nous, on fait que surfer sur la vague du placardisme, je crois qu'on peut le dire.
On peut le dire, effectivement. Et ce film, on attend tous beaucoup, Guillaume, je pense que tu es comme moi.
Tout à fait, oui. Oui, parce qu'en fait, un élément important et essentiel à savoir sur Sin City, c'est son côté graphique assez unique. C'est-à-dire que c'est un énorme, énorme, mais vraiment monumental travail de monochromie. C'est-à-dire que ce n'est que son, que des aplats de noir et de blanc. Et avec ça, Frank Miller nous fait voyager à travers la ville, à travers toutes ces histoires très très noires d'enquêtes horribles avec des personnages torturés, comme l'a expliqué Olivier. Et je pense que beaucoup de fans de Sin City sont très impatients de voir comment cet impact graphique a pu être recopié,
retranscrit à l'écran, ouais.
Au niveau cinématographique.
Il me semble que pour avoir vu un vague documentaire, on va avoir droit à des fonds verts, donc ce qui permettra des incrustations tout à fait exceptionnelles pour retranscrire le côté noir et blanc. Donc tout de suite, je pense que c'est maintenant un disque, non ?
Ouais, voilà, on va se passer un disque sur ces bonnes paroles, et ces copieuses bonnes paroles. On écoute Hush Puppies, qui est un groupe en fait français, qui fait du rock and roll un petit peu. C'est extrait d'un maxi CD qui s'appelle The Garden, et le titre, bah, ça s'appelle Hush Puppies. Donc c'est Hush Puppies avec Hush Puppies sur Graphite 94.9.
Culture en placard, le lundi 20h-21h sur Graphite.
Et nous revoilà encore sur Graphite 94.9, et nous allons un peu reparler de cinéma, vu qu'on a été assez vite sur les sorties en fin de compte, parce qu'on a passé un peu la trappe, la sortie d'un film très très attendu, qui est La vie aquatique de Wes Anderson, avec dans le rôle principal, accrochez-vous bien, un acteur qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps, mis à part un petit film l'année dernière, qui est Bill Murray.
Ah, Bill Murray.
Bill Murray, vous devez le connaître tous.
Le petit film de l'année dernière, c'était quand même Lost in Translation, hein, pour ceux qui ont un petit doute.
Tout à fait, justement, à ce sujet-là, l'année dernière, dernière, l'Oscar lui est passé sous le nez, et cette année, il paraîtrait dans les milieux qui sont au courant de ce genre de choses, on sait comment, mais il a très grandes chances de choper l'Oscar du meilleur acteur cette année, grâce à son rôle justement dans La vie aquatique de Wes Anderson, une espèce d'histoire complètement farfelue sur le capitaine Zissou, qui serait une espèce de commandant Cousteau complètement fou furieux, qui a décidé après 10 ans qu'il allait saouler la gueule, partir à la recherche du requin qui a buté de son pote et se venger. Donc accrochez-vous, ça doit être très haut en couleur, assez amusant. Je sais pas si vous connaissez Wes Anderson, qui est réalisateur.
Wes Anderson, des références, il a fait quoi de bien avant
Oula, tu m'en veux. Là, je suis obligé de m'avouer vaincu sur ma culture cinématographique vis-à-vis Wes Anderson. Je trouve pas de nom là, porté comme ça de cerveau, mais on fera peut-être un petit retour là-dessus la semaine prochaine.
Ouais, on en reparlera.
Une fois qu'on aura vu le film,
qu'on sera documenté.
Et qu'on sera mieux documenté.
On a dit beaucoup de bien en tout cas. La vie aquatique.
Il a a priori un fort succès. Et puis un autre film a priori à voir qui va sortir cette semaine, qui est Team America.
Police du monde.
Réalisé par Trey Parker et Matt Stone, des noms qui ne vous sont pas inconnus si vous êtes fan de South Park, vu que ce sont les deux créateurs fondateurs de cette série. Et pour le biais de ce film-là, ils ont engagé grosso modo une énorme équipe de marionnettistes et ont fait un film à la
Thunderbirds,
voilà, exactement, les sentinelles de l'air, si vous connaissez la version uniquement française, espèce de petites marionnettes qui partent en fusée spatiale sauver la planète ou sauver les gens aux quatre coins de la planète. Et donc là on tombe dans une critique acerbe, coupée au couteau, monstrueuse des États-Unis, où si vous voulez vous marrer un bon coup, allez voir ne serait-ce que la bande-annonce.
Ouais, la bande-annonce.
Où ça commence sur un sacré, on aurait cru un casting au départ où vous avez un enchaînement de noms du genre Ben Affleck,
George Clooney. Et après ça se dégrade, il y a Michael Moore, George W. Bush,
John Kerry, et ça termine sur tout cela vont avoir les boules quand ils verront Team America, la police du monde. Donc peut-être très certainement un film à voir si vous êtes un petit peu anti-américain dans la vague actuelle, si vous n'avez que juste envie de vous marrer un bon coup, allez le voir. Je pense que c'est un bon pari. On pourra peut-être vous en dire plus la semaine prochaine, on verra bien.
Il y a des chances.
Voilà.
D'ailleurs, ça passe au... J'ai des chances de pouvoir vous donner une info un petit peu plus précise. Je crois bien que ça passe au Majestic. J'ai vu ça sur une sorte de papier... affiché quelque part. Donc ça passe au Majestic, c'est sorti mercredi dernier. Donc voilà, allez le voir. Bien, qu'est-ce qu'on a sur le feu là? Je voulais dire un mot sur... on va parler livres maintenant, on va parler littérature un petit peu. Hein?
Ah mais
on va pas
fait,
mettre un disque tout de suite. Hein.
Non, je t'attends sur ce livre justement.
Voilà, donc on parle littérature un petit peu avec, vous en avez peut-être entendu parler, le 20 février dernier est mort un monsieur qui s'appelait Hunter S. Thompson, qui était un journaliste américain, connu principalement parce que c'était l'auteur de Las Vegas Parano, donc avant d'être un excellent film que je recommande à tous avec Johnny Depp, était un livre et était en fait une histoire vraie, c'est-à-dire que c'était un reportage au cœur de Las Vegas qu'il avait fait pour, à la base ça a été commandé par Sports Illustrated, mais au final ça a dû paraître dans Rolling Stone. Il a beaucoup travaillé avec Rolling Stone, le magazine américain. On en a une version française qui est d'ailleurs pas mal et que je recommande à tout le monde. Donc Hunter S. Thompson, c'est un monsieur qui est né à la fin des années 30, je crois en 37 ou 39, on n'est pas tout à fait d'accord sur cette date, ça dépend de biographies qu'on regarde. Enfin c'est le 18 juillet, c'est tout ce que je voulais. Et en fait il s'est très vite... il a fait son service militaire sur une base aérienne et très vite il s'est découvert un goût pour la glande et donc pour être à l'abri un petit peu de toute menace de travail, il a décidé d'écrire dans le papier local et de là est née une carrière une vocation pour le journalisme. En fait, il a une forme de journalisme assez particulière qu'il a appelé le gonzo journalisme, où en fait il se met en scène lui-même pour couvrir l'événement. Donc c'est à la limite entre le journalisme et la fiction. Il se réclame beaucoup de Faulkner à ce sujet. Et donc pour ceux qui connaissent Las Vegas Parano, vous voyez tout à fait le genre de truc, c'est-à-dire qu'il va couvrir un événement alors qu'il est sous prétexte d'une vague course de buggy dans le désert. Grosso modo, il passe quelques jours à Las Vegas avec une collection de drogue absolument impressionnante dans son coffre, une décapotable rouge et un avocat originaire des îles Samoa qui est tout aussi dégénéré que lui. Et donc tout ça est extrêmement plaisant. Et donc ce monsieur, en fait, effectivement, a été une figure marquante des années de la fin des années 60 et du début des années 70 aux États-Unis. Il a couvert avec des méthodes aussi peu recommandables le procès du Watergate et la campagne, avant le procès du Watergate, il y avait la campagne présidentielle de 72 aux États-Unis. Et effectivement, il a beaucoup regretté la fin de l'âge d'or américain, quoi, de l'épopée de la contestation, le mouvement hippie, etc. Et donc, il était un petit peu déprimé ces derniers temps. Et donc, effectivement, il est mort. Voilà, il s'est suicidé le 20 février dernier d'une balle dans la tête. Il avait une passion pour les armes à feu assez dangereuse quand on connaissait aussi sa passion pour les drogues psychédéliques. Voilà, c'était juste pour dire un petit mot là-dessus. Moi, j'étais quelqu'un que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il a été avant Las Vegas Parano, qui a été adapté donc en 98 avec Johnny Depp. Il y avait eu une adaptation d'un de ses bouquins. Alors, je connais pas le titre français, mais le titre anglais c'est Where the Buffalo Roams. Donc, ça doit se traduire par où les buffles vont errer. Bref, et il y avait donc, c'était en 1980, il y avait Bill Murray dans le rôle titre. Donc, je fais une petite transition. Donc, c'était bien. Voilà, on en parle. Voilà.
Mais excuse-moi, j'ai pas tout compris, culture BD. C'est bien un livre qu'il a écrit ou c'est un journaliste?
Alors en fait, mais il a écrit quelques bouquins aussi. Alors donc effectivement, comme conseil de lecture, on peut recommander Las Vegas Parano. C'est chez 10-18 en français. Moi, c'est pas très extrêmement dur à lire. Ça fait du bien de lire en anglais. Ça vaut le coup d'essayer d'aller le chercher en VO. Et donc là récemment, il y avait son autobiographie. Il a écrit son autobiographie, mais je pense pas que ce soit sorti en France pour l'instant. Ça s'appelle Kingdom of Fear. Et sinon, il y a des recueils articles qui sont sortis en deux tomes chez 10-18, donc il y a La Grande Chasse aux Requins et Le Nouveau Testament Gonzo. Et sinon, ça doit être possible de trouver ça chez Random House en édition américaine. The Great Shark Run, c'est un gros pavé, et il y a plein de trucs. Alors c'est bien, ça se lit vite parce que c'est des recueils d'articles, donc il y a des choses sérieuses. Il couvre la campagne présidentielle de 72, il y a du journalisme sportif avec le fameux combat où Mohamed Ali a été maintenu en échec par un type sorti de nulle part, et des trucs qui frôlent la fiction. Il va couvrir justement un tournoi de chasse aux requins sur une île obscure des Caraïbes, et au final il crache au milieu d'un cocktail avec une Jeep volée sous l'influence de mescaline. Enfin, c'est absolument inénarrable, et il a un style qui est très très particulier, qui a d'ailleurs été bien allègrement repompé depuis, et je le recommande à tout le monde. Voilà.
Je te remercie, Guillaume, de cette précision importante.
Pourquoi est-ce que j'entends plus rien dans mon retour?
Bonne question. Et donc, a priori, notre Guillaume s'est mis en carafe tout seul. Il n'entend plus rien, il ne sait plus si je parle à la radio ou si je ne parle pas à la radio. Donc je tente le coup, si vous m'entendez, eh bien, je pense que l'on va enchaîner assez rapidement avec un morceau de musique assez sympathique. J'ai pas le CD sous les yeux, j'ai pas la fille.
Si, moi je sais ce qu'on écoute. Ah, on écoute Prodigy.
Ah oui.
On écoute Prodigy, le dernier album. Alors ils sont de retour après 7 ans d'absence, on peut le dire. L'album est sorti à la fin de l'été dernier. Il s'appelle Always at Number, Never at Gun. On écoute tout de suite Shoot Down, un titre sur lequel Liam Gallagher d'Oasis chante. Et d'ailleurs, il y a son frangin Noël qui joue de la basse derrière. Voilà, c'est.
Culture en placard, les lundis 20h21 sur Graphite.
Et nous revoilà encore sur Graphite 94.9, où nous venons d'entendre le dernier album de Prodigy.
Alors un petit mot sur Prodigy.
Ah, il faut bien en parler un petit peu quand même.
Moi j'aime beaucoup Prodigy. C'est un groupe que j'affectionne particulièrement parce que c'est vrai que c'est eux qui ont lancé en 1997 cette espèce de mode de mélanger le rock et les musiques électroniques. Et puis après, d'un coup, on n'en a plus beaucoup entendu parler. Ils ont rien fait. Bon, alors ils ont tourné quelques années. Alors ils ont pris un repos bien mérité. Mais c'est vrai qu'effectivement, Prodigy, pas d'album depuis 97. Alors d'ailleurs on l'attendait, on se moquait beaucoup d'eux sur internet à propos de ce nouvel album dont on avait le titre mais absolument rien d'autre. Et en fait il s'avère qu'il y avait un single qui était sorti, pour ceux qui s'en souviennent, qui était pas mal, c'était sorti en 2002, ça s'appelait Baby's Got a Temper. Et en fait le reste de l'album devait être un peu dans le même style que ce single, mais Liam Howlett, le compositeur et le chef d'orchestre de Prodigy, a trouvé qu'il se mordait un peu la queue, qu'il tournait un petit peu en rond autour de ça, à réutiliser un petit peu sa même recette de l'album qu'il avait sorti en 97 qui s'appelait The Fat of the Land et qui était très très bon. Et donc il a mis la clé sur la porte de son studio, il s'est acheté un ordinateur portable et il a tout fait comme ça dans des chambres d'hôtel. Il a déménagé, il a profité pour bouger sur Londres, et donc en fait il a fait venir plein de gens sur son album. Le disque est il y en a qui l'ont pas beaucoup aimé ou qui ont été déçus, parce qu'après ces temps d'attente c'est normal de s'attendre à quelque chose d'absolument fantastique. Moi je l'aime bien, donc je vous le recommande. Voilà, Guillaume, là je crois qu'on a tu vas nous parler de notre amie Constance.
Ah, tout à fait.
La présidente de l'UNL.
N'en dis pas trop, je t'en prie.
Vas-y, allez, je te lance, c'est ton billet d'humeur.
Exactement. Alors ce soir, en fait, j'adresse un petit courrier à Constance Blanchard. Bon, tout de suite, j'imagine dans vos petits yeux, là, une curiosité, une incompréhension. Il a dit qui ? Constance quoi ?
Constance qui ?
Mais c'est qui celle-là ? Alors, que j'introduise la chose. Mademoiselle Constance est l'actuelle présidente de l'UNL. L'UNL, c'est l'Union Nationale Lycéenne. Mais si, vous devez connaître, il s'agit du plus grand syndicat lycéen français. Mais oui, 3500 syndiqués, ça fait un peu moins d'un syndiqué pour quatre établissements de lycée. Ça va, c'est une belle répartition. Enfin, revenons-en à notre chère Constance. Cette semaine, Le Monde t'accorde un article intitulé « Une agitatrice précoce ». Mais quel blasphème ! Tu as dû voir rouge en lisant ce titre, toi qui, quand elle entend les critiques, elle les prend mal. Véridique, c'est dans l'article. Précoce, ose-t-il dire. Mais tu as pourtant insisté sur l'ancienneté de ton investissement politique. Je cite, son premier souvenir politique remonte au CE2. Et ta maman d'ajouter, dès la maternelle, elle a toujours eu des amis sous sa coupe. Évidemment, devant un tel CV, on ne peut que comprendre le niveau des slogans des manifestations. Eh oui, souvenez-vous, le CE2, là où on apprend à écrire. Pas de content, pas de content, Fillon, tête de con, Fillon, tête de con. Allez, tous en cœur, tous en cœur. Mais en CE2, on maîtrise aussi les mathématiques. Et là, je t'invite, chère Constance, à un petit calcul. Alors, mardi dernier, les chiffres nous donnaient 9000 manifestants. À ça, nous allons retirer les 3500 syndiqués UNL et aussi les 3500 syndiqués de la FIDEL, l'autre syndicat lycéen. À ça, on retire encore les 1000 casseurs dont nous parlions tout à l'heure, ce qui nous laisse un total de 9000 moins 8000. 1000 cons venus exiger le retrait de la réforme de Fillon sur le BARC, réforme qui a été retirée il y a déjà 3 semaines de ça. Donc, je m'arrêterai sur une dernière citation qui en elle-même résume la force populaire du mouvement lycéen que tu défends, chère Constance. Ah bon, ça a été reporté ? Je savais pas. C'est pas grave. Dites qu'on manifeste pour le maintien des TPE en lycée.
Oh là 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 là. Bien.
Il me semble qu'il y a un film qui s'appelle Brise de Nice qui va sortir et je me permettrai de dire cassé.
Effectivement, ouais, là tu nous l'as traîné dans la.
C'est sans prétention aucune, ce genre de petite.
Mais moi je l'aime bien, je pense que c'est bien que les lycéens ils s'activent un petit peu pour. Enfin, moi à l'époque je faisais pas ça, je sais. Quand j'étais lycéen, j'étais jeune et bête.
Ouais, tu n'es pas descendu dans les rues contre Allègre dans les années 90.
Ah non, parce que moi j'étais dans un. Non, mais je vais pas parler de ma jeunesse, c'est dans le réseau privé, mais moi non. Voilà. Bien, j'ai envie de parler de musique un petit peu là, pour conclure cette émission. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine déjà.
Oui, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on parle de. J'ai envie qu'on parle de jeux vidéo la semaine prochaine. Voilà, j'ai quand même une espèce de grande passion pour cette culture qu'on sort du placard, mais en fait, pour pas prendre notre auditeur trop de cours, on commence par des formes de culture qui sont pas trop difficiles à ingérer. Donc, bande dessinée, jeux vidéo, voilà.
Tu me fais mal là, Guillaume, tu me fais mal.
La culture devant tous de canapé, je pense qu'on peut le dire. Et voilà, donc bon, moi, pour l'instant, je vous parle de musique. J'ai un disque que j'affectionne particulièrement. C'est un groupe britannique. Alors c'est des Anglais chevelus, très chevelus d'ailleurs, qui font du rock.
Sacrément chevelu.
Du très bon rock. Ça s'appelle Kasabian. Vous l'avez peut-être entendu sur Graphite. Ça passe un petit peu ces derniers temps. Ils viennent de Leicester. Alors ça s'écrit Leicester, mais ça se prononce Leicester. Donc je suis très très content de moi. Ils se réclament. C'est leur premier album. Ils se réclament d'influences aussi diverses que les Happy Mondays ou les Stones ou Primal Scream. Moi j'aime beaucoup Primal Scream. Ils vont nous sortir un autre groupe, c'est un autre groupe anglais, alors qui a une discographie longue comme un jour sans pain. Ils sortent ils devraient ressortir un album sous peu. Et donc voilà, ils sont assez jeunes. Alors c'est assez rigolo parce que le nom Kasabian, je le dis juste, vient de comment s'appelait-elle, Lisa, je crois, Lindsay Kasabian, qui était la qui était une amie de Charles Manson, le tueur psychopathe américain dans les années 60.
Plus que ça, voyons. Ça, vraiment sa petite amie officielle.
Ouais, elle conduisait les voitures dans les dérapages de Charles Manson. Et donc voilà, donc c'est assez rigolo. Enfin, ils ont tout un artwork qui est assez révolutionnaire. Et on va pas en dire plus, mais on va vous dire au revoir. On va vous dire à la semaine prochaine. Donc pour se quitter, on va écouter un extrait du premier album de Kasabian. L'album s'appelle Kasabian et le titre s'appelle Processed Beats. C'est Graphite 94.9 FM. On vous dit bonsoir à tous, c'était Culture en Placard.
Culture en Placard, le lundi 20h-21h sur Graphite.
Culture en Placard, c'est fini pour ce soir. Vous avez l'immense honneur de retrouver la programmation Graphite. Une nuit de bonheur pour vous, c'est Lucille. Pour Miam, on se retrouve juste demain, 12h30. C'est la prochaine émission en live sur Graphite.